D'un côté, l'Organisation mondiale de la santé estime que la cigarette électronique peut être dangereuse pour la santé, recommande d'être prudent parce qu'on ne connaît pas encore les effets à long terme, dit même qu'elle pourrait créer de la dépendance. De l'autre, des médecins éminents la considèrent comme un outil intéressant pour la cessation du tabac chez les fumeurs chroniques. Mario Bujold, c'est pas étonnant que le grand public soit un petit peu perdu dans ces débats-là et dans ces opinions contradictoires.
Bien, effectivement, puis c'est parce qu'on manque un peu d'informations scientifiques et précises sur ce produit-là. Il faut rappeler que c'est relativement récent comme phénomène, la cigarette électronique au Québec. Ça fait à peine 3 ans ou 4 ans là, que c'est présent, mais ça connaît effectivement beaucoup de popularité auprès de certaines personnes, en particulier des fumeurs qui veulent peut-être, par ce moyen-là, cesser de fumer, mais on pourra voir là, plus tard que c'est pas nécessairement la méthode la plus efficace non plus.
Vous êtes directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Seulement 3 ans en même temps, ce que je trouve assez effarant, c'est qu'en 2013, le marché mondial était de 3 milliards pour la cigarette électronique. C'est énorme en 3 ans. Comment ça a pu faire des petits un petit peu partout dans le monde?
Bien, il y a vraiment une industrie derrière ça. Il y a des gens qui se sont mis à s'y intéresser et vous ne serez peut-être pas surprise d'apprendre que notamment les compagnies de tabac qui connaissent bien les comportements des fumeurs et qui voient là une occasion de diversifier, dans le fond, leur produit, leur offre à cette clientèle-là des fumeurs. Mais effectivement, il y a toute une machine commerciale derrière ces produits-là, puis tellement qu'on peut vraiment se poser la question parfois, est-ce que ça sert plus aux individus ou est-ce que ça sert plus aux compagnies qui se trouvent à faire beaucoup d'argent avec ça?
Mm-hmm. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il faut être prudent avec la cigarette électronique parce qu'on ne connaît pas les effets sur la santé à long terme, mais est-ce à court terme ou moyen terme, est-ce qu'on les connaît, les impacts sur la santé?
On en connaît certains, c'est-à-dire qu'on sait que dans la cigarette électronique, dans la fumée qu'elle dégage, il y a plusieurs substances qui peuvent nuire à la santé. On trouve entre autres évidemment, il y a de la nicotine dans la plupart des cigarettes électroniques. Donc, en soi, c'est pas un produit qui est inoffensif, mais on a aussi des produits cancérigènes comme du benzène, du plomb, du nickel qu'on retrouve dans cette fumée-là. Il y a du propylène glycol qui est un produit aussi qui peut avoir des effets irritants sur les voies respiratoires. Puis, différentes nitrosamines qu'on retrouve aussi dans les produits de tabac. Donc, il y a moins de substances toxiques que dans la fumée d'une cigarette, disons, traditionnelle, mais il y a quand même suffisamment de produits et pour lesquels on ne sait pas à moyen et long terme qu'est-ce que ça peut avoir comme effet chez les gens qui consomment ou les gens qui sont exposés. Parce qu'on pense à ceux qui inhalent ce produit-là et qui donc le consomment, mais aussi ça se retrouve dans l'environnement comme, évidemment, c'est souvent fumé dans des lieux intérieurs.
Ouais.
Donc, à ce moment-là, les gens aussi dans l'entourage sont exposés à ces substances-là. Et c'est là aussi que l'Organisation mondiale de la santé dit, attention, soyons très prudents. Puis c'est pas le seul organisme de santé. Ici, Santé Canada, de même que le ministère de la Santé au Québec, ont aussi émis des avis qui déconseillent fortement aux gens d'utiliser la cigarette électronique parce qu'on ne sait pas les effets que cette fumée-là ou que ces produits-là peuvent avoir sur une plus longue période.
Vous m'avez nommé quelques composés de la cigarette électronique, composés chimiques, mais est-ce qu'on connaît les pourcentages de ces composés-là?
C'est pas clair, hein, parce que justement, les fabricants, la mise en marché puis la fabrication des cigarettes électroniques n'est réglementée d'aucune façon actuellement. Donc, il n'y a pas d'obligation des fabricants d'indiquer quel taux de nicotine on retrouve ou qu'est-ce qu'on retrouve comme autre substance dans ces produits-là. C'est plus parce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites en laboratoire et des études qui ont porté là-dessus qu'on a pu identifier là qu'il y a différents produits qu'on retrouve dans cette fumée-là. Et comme la fabrication n'est pas réglementée, en fait, n'importe qui peut mettre à peu près n'importe quoi. Puis il n'est pas dit que ce qu'on retrouve dans un modèle de cigarette électronique, c'est comparable dans un autre modèle parce que c'est pas du tout réglementé.
Et à peu près n'importe qui, n'importe où peut en vendre désormais un peu partout au Québec. Là, on voit pousser des magasins qui vendent la cigarette électronique.
Oui, et même, en fait, comme il n'y a aucune règle aussi pour la promotion, ben on peut dire à peu près n'importe quoi. On peut prétendre des choses qui sont fausses. On peut avancer plein de données qui ne sont pas nécessairement vérifiables parce que, justement, c'est pas encadré, c'est pas régi. Oui. On n'encadre pas ni la promotion, ni la fabrication, ni la mise en marché comme telle de ça.
Et concernant la nicotine, je reviens là-dessus, c'est pas illégal au Canada, là, le concentré de nicotine dans la cigarette électronique?
Effectivement, Santé Canada, qui, en vertu de la loi sur les aliments et drogues, se trouve à encadrer d'une certaine façon ce produit-là. Tout ce qu'ils ont fait, Santé Canada, c'est de dire que c'est illégal d'en vendre. C'est pas permis d'en vendre avec de la nicotine.
Mm-hmm.
En même temps, on le voit, les gens le constatent, il s'en vend avec de la nicotine et de ce qu'on peut voir, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de démarche pour faire respecter cette réglementation-là de Santé Canada. Donc, ça fait partie du problème. Je sais que les autorités, entre autres de Santé Canada, sont au courant de ça, cherchent à trouver des moyens pour mieux encadrer tout ça, mais en attendant, on est un petit peu dans une situation où, par manque de règles, ben justement, tout le monde fait un peu n'importe quoi.
Oui.
Et c'est les fumeurs et c'est la population générale qui risque d'en payer le prix, notamment les jeunes là, qui sont très attirés aussi par ce produit-là, dans lequel on ajoute des saveurs. Alors, un peu comme les cigarios à saveur de fruits, tout ça, ben les cigarettes électroniques aussi, on en retrouve avec des saveurs de fraises, de kiwi, de bananes, etc. Donc, ça devient attrayant et une curiosité et ça fait en sorte que ça peut inciter davantage de personnes à consommer ce produit-là alors qu'ils n'étaient pas fumeurs par le passé.
Oui, d'ailleurs, quelques chiffres. Un élève sur trois en ferait usage au secondaire, ça c'est au Québec. Au Canada, 10 % des jeunes de 16 à 18 ans non fumeurs ont essayé la cigarette électronique. Donc, ces jeunes courent deux fois plus de risques d'être tentés de fumer ensuite la cigarette conventionnelle. C'est des études qui ont été fait du côté de Toronto. C'est pas interdit la vente de cigarettes électroniques du côté des mineurs?
Bien, comme il n'y a aucune réglementation, il n'y a aucune loi, il n'y a pas d'interdiction formelle. Puis c'est là où il y aurait des améliorations à apporter, parce que c'est un peu un non-sens de dire on interdit la vente de tabac traditionnel, on encadre la promotion du tabac traditionnel, c'est pas permis d'en vendre au moins de 18 ans, mais dans le cas de la cigarette électronique, qui s'apparente en termes d'image puis d'aspect très, très beaucoup à la cigarette traditionnelle,
oui.
On jurerait que c'est la même chose. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune réglementation. Donc, c'est là où il y a vraiment un manquement important. Et on voit l'effet que ça a. On a vu dans des données aussi aux États-Unis qu'en une période d'un an, entre 2011 et 2012, la proportion des jeunes secondaires qui fument ou qui utilisent la cigarette électronique a doublé. Donc, il y a vraiment là, par des stratégies de marketing, des compagnies qui mettent en marché des produits, on réussit à atteindre cette cible-là des jeunes, cette clientèle-là. Et malheureusement, ça peut amener des jeunes à se diriger après ça vers le produit qui est la cigarette plus traditionnelle. Et même si ce n'était que la cigarette électronique comme telle, ben c'est quand même pas inoffensif. Est-ce qu'on souhaite que les jeunes adolescents deviennent dépendants de la nicotine, même s'ils n'ont pas les autres composés de la fumée qu'on retrouve dans la cigarette traditionnelle? C'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Et je pense qu'il y a là vraiment des positions importantes à prendre de la part des gouvernements.
Oui. Maintenant, Mario Bujol, j'aimerais ça vous lancer un petit défi. Parce qu'on est à la radio et je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis que tout le monde à la maison sait nécessairement ce qu'est la cigarette électronique, ou du moins ils le savent, mais ne savent peut-être pas tout à fait le fonctionnement. Est-ce que vous pouvez tenter de nous l'expliquer?
Oui. D'abord, c'est un produit qui a la forme d'une cigarette. Donc, c'est un tube qui a à peu près la même longueur qu'une cigarette traditionnelle, dans lequel on retrouve un atomiseur et une pile. Il y a également une cartouche qui peut contenir généralement de la nicotine ainsi que des arômes, des saveurs, comme je disais tantôt, là, qui peuvent être saveurs de fruits, de bananes, bon, ainsi de suite. Et le fonctionnement de la cigarette, c'est que l'utilisateur de ça, en tirant une bouffée sur ce produit-là, ça fait en sorte que l'atomiseur qui est chauffé par la pile va chauffer le liquide de la cartouche et créer, dans le fond, une vapeur. Dans laquelle on retrouve donc les produits dont je parlais plus tôt, le propylène glycol et d'autres produits qu'on retrouve. Et donc, c'est comme ça que la cigarette électronique fonctionne.
Et de là, ce nouveau verbe ou ce nouveau mot « vapoter » ou « les vapoteurs ».
Exactement, là, qui vient des vapeurs qu'on émet. Bon, ça fait peut-être plus élégant que fumeur,
ouais.
Mais en même temps, c'est la même apparence. Quand on voit des gens vapoter, c'est à s'y méprendre à ce qu'on peut reconnaître quand on voit quelqu'un fumer une cigarette traditionnelle.
Mm-hmm. Maintenant, je me mets du côté des scientifiques et des médecins qui se sont prononcés, souvent de grands défenseurs, des gens qui font la promotion de la cessation du tabagisme et qui se sont prononcés comme quoi la cigarette électronique pouvait être un outil intéressant pour des fumeurs chroniques pour cesser le tabac. Est-ce vrai, selon vous, est-ce que ça peut réellement aider un fumeur chronique?
Ben, il y a quelques études qui ont été faites sur l'efficacité de la cigarette électronique comme moyen pour cesser de fumer. D'abord, il faut savoir que la plupart des gens qui utilisent la cigarette électronique ne l'utilisent pas dans le but de cesser de fumer. Donc, c'est première des choses. Par la suite, bon, les gens qui l'ont utilisé dans ce but-là pour cesser de fumer, les taux de réussite après un an sont comparables à ce qu'on retrouve avec des timbres à la nicotine. Donc, à peu près 20 % de taux de réussite après un an.
Mm-hmm.
Ça veut dire que 80 % des gens qui l'utilisent pour cesser de fumer ne réussissent pas avec ce moyen-là. Donc, c'est pas une méthode miracle pour arrêter de fumer. Ça se compare, semble-t-il, à des approches comme les timbres à la nicotine. Par contre, si quelqu'un veut cesser de fumer, il y a des méthodes beaucoup plus efficaces qui ont fait leurs preuves. Par exemple, si on va chercher un soutien sous forme de counseling ou même en utilisant une ligne téléphonique, tout ça, c'est des moyens qui ont démontré plus d'efficacité après un an pour aider les gens à cesser de fumer. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas servir à des gens. Tout moyen peut être efficace. L'important, c'est de réussir. Dans le cas des gens qui ont tout essayé ou qui ont essayé plusieurs méthodes, peut-être que ça peut fonctionner. Mais il faudrait voir justement jusqu'à quel point ils ont essayé toutes les méthodes. Puis souvent, les gens qui ont fait plusieurs tentatives, c'est qu'ils ont davantage besoin de soutien. Et ça, la cigarette électronique ne leur donnera pas ça. L'aspect du counseling, l'aspect d'être accompagné, d'être aidé dans sa démarche quand on veut cesser de fumer, c'est un élément très important. Parce que il faut se rappeler que dans la cessation tabagique, il y a deux aspects de dépendance. Il y a la dépendance physique, qui est la dépendance à la nicotine, et il y a la dépendance psychologique. Et la dépendance psychologique, c'est la dépendance qui est la plus importante et donc c'est le plus difficile de se défaire. Parce que la dépendance à la nicotine, au bout d'à peu près une dizaine de jours, quand quelqu'un cesse de consommer des produits du tabac ou même des produits avec de la nicotine, la nicotine s'est éliminée de son organisme. Donc, il n'y en a plus de nicotine dans l'organisme. Donc, cette dépendance-là physique n'existe plus après une dizaine de jours.
Mm-hmm.
Le gros du travail à faire, c'est la dépendance psychologique, c'est-à-dire comment on va modifier ses comportements, comment on va prévoir, par exemple, que dans telles circonstances où on avait l'habitude de fumer, comment on va s'y prendre pour éviter de retomber dans ce piège-là à ce moment-là. Et ça, souvent, ça peut vraiment être facilité par un soutien sous forme de counseling. Ce que la cigarette électronique ne donne pas du tout, c'est la personne avec elle-même et rien d'autre en termes de soutien.
Et elle coûte quelque chose également.
Oui, c'est quand même assez dispendieux. Certains diront que c'est moins dispendieux que la cigarette. Je veux bien, mais c'est pas certain non plus que les gens vont l'apprécier puis vont vouloir l'utiliser pendant longtemps. On parle d'à peu près une soixantaine de dollars pour avoir la trousse de base, là, parce qu'il y a toutes sortes de bidules avec la cigarette pour brancher ça, pour organiser tout ça. Et ça prend après ça des cartouches pour recharger la partie en nicotine et tout ça. Et ça se vend à peu près 5 $ par cartouche. Donc, ça en prend, pour un fumeur moyen, à peu près 2 par semaine. Donc, c'est à peu près 10 $ par semaine. Donc, ça dépend un peu des gens, mais si l'objectif, c'est de cesser de fumer, moi, je dirais aux gens, allez plutôt vers les méthodes reconnues efficaces. Puis, il y en a plein. Il y a des. Si c'est une approche qui vous intéresse, par exemple, d'aller chercher un soutien sous forme de counseling, allez-y. dans tous les... Il y a plus de 150 centres d'abandon du tabagisme au Québec. Oui. En communiquant avec son CLSC, entre autres, ils offrent des programmes en counseling, en individuel ou en programme de groupe. Il y a la ligne J'arrête, qui est un service gratuit. Donc, plutôt que dépenser vers un moyen qui est loin de leur permettre ou de leur assurer d'avoir une réussite, pourquoi ne pas aller vers des ressources qui ne coûtent rien, mais qui ont aussi un très bon taux d'efficacité?
En terminant, Mario Bujold, quels sont les espoirs du Conseil québécois sur le tabac et la santé en ce qui a trait aux démarches que feront les autorités pour réglementer la cigarette électronique, autant la vente que sa consommation dans les lieux publics et aussi sa vente aux mineurs, bien sûr? Ouais.
Il est clair que le produit a besoin d'être mieux réglementé en termes de fabrication, de distribution, puis en termes de promotion comme telle. Actuellement, il n'y a rien et c'est un vrai manque. On devrait pouvoir assujettir la cigarette électronique à la loi sur le tabac, ce qui ferait en sorte que sa vente auprès des jeunes serait interdite, ce qui ferait en sorte aussi qu'on protégerait la population des effets potentiels de la fumée qui se dégage de la cigarette électronique dans les lieux publics où c'est déjà interdit de fumer du tabac traditionnel. Et aussi, on pourrait évidemment mieux contrôler toute sa promotion puis faire en sorte que les gens ne soient pas influencés par des messages, mais qui n'ont rien à voir avec le produit comme tel. Parce que c'est beaucoup présenté comme la cigarette traditionnelle l'était il y a plusieurs années, c'est-à-dire comme un style de vie, comme une façon de s'afficher.
Oui,
comme...
c'est cool!
C'est ça, exactement. Ouais. C'est l'image cool. Si vous faites ça, vous allez être cool. Évidemment, pour des jeunes, c'est attrayant ça, mais même pour des adultes ou même pour des gens qui ont arrêté de fumer et qui croient peut-être de cette façon-là qu'ils pourraient reprendre cette dépendance qu'ils avaient à la cigarette et avec un moindre mal, mais c'est très risqué qu'on y perde au change parce que justement, pour certaines personnes qui avaient arrêté de fumer, ça pourrait les amener à recommencer à fumer, d'un, en étant dépendant de la nicotine dans les cigarettes électroniques, mais de deux, peut-être retourner éventuellement au tabac plus traditionnel. Donc, je pense que vraiment, ce que les gouvernements doivent faire, c'est mieux encadrer. Là. Puis une bonne façon, ça serait d'assujettir la cigarette électronique à la loi sur le tabac.
Mm-hmm. Mario Bujold, directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé, merci beaucoup pour cet avis. C'était très éclairant.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.